VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du mardi 14 août 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. L'Union européenne et les Nations unies appellent au calme au Mali dans l'attente des résultats du second tour de la présidentielle. L'opposant mauritanien Biramda Ould Abeid a été inculpé et écroué à 72 heures du début de la campagne pour les législatives du 1er septembre. Au Burundi aussi, un militant des droits de l'homme a été condamné à 5 ans de prison. International Crisis Group note une baisse des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun.
Affaiblissement qui ne signifie pas pour autant défaite de Boko Haram. Notre rapport insiste sur comment on envisage la phase de stabilisation du post-conflit.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous au Mali. Comme au premier tour, les camps du pouvoir et de l'opposition ont engagé la bataille de l'opinion avant même la publication des résultats du second tour. Les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta soutiennent que leur candidat sera réélu. Soumaïl Cissé a lui déjà rejeté les résultats du scrutin du 12 août. Plus de précisions avec Kassim Traoré à Bamako.
En attendant les résultats provisoires officiels, il y a une vive tension entre les deux candidats. Soumaïla Cissé, candidat de l'URD.
Nous avons un logiciel de compilation qui nous donnait les résultats au fur et à mesure, bureau de vote par bureau de vote. Il a été attaqué et devenu inopérationnel. Nous avons aussi des résultats fantaisistes dans le nord du pays. Les bulletins de vote circulent à l'avance, certains déjà remplis et signés. La fraude, elle est avérée. C'est pour ça qu'il y a des résultats que nous n'accepterons pas.
Bokary Traoré, directeur de campagne du candidat Ibeka.
Le gouvernement du Mali a porté plainte contre X pour soustraction et utilisation frauduleuse du bulletin de vote qui avait été exhibé par le directeur de campagne du candidat de l'URD. Les résultats issus du système de centralisation de notre QG de campagne indiquent que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable.
La mission d'observation de l'Union européenne appelle au calme. Cécile Kengé, chef de la mission.
Appelle les candidats à faire preuve de mesure en évitant d'annoncer leur propre estimation avant publication des résultats provisoires par l'administration électorale et à régler les contestations éventuelles par la seule voie des recours juridictionnels.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Mauritanie, l'opposant Biramda Ould Abeid, président d'une ONG anti-esclavagiste et candidat aux législatives du 1er septembre, a été inculpé et emprisonné. Les détails avec Yacouba Betraougo.
Déféré hier devant le procureur, Biram Daoud Abeid a été inculpé pour atteinte à l'intégrité d'autrui et menace d'usage de la violence. Un militant de son ONG, Abdallahi Ould Hussein, a lui aussi été écroué pour complicité dans le même dossier. Président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, M. Ould Abe a été placé en garde à vue dans un commissariat de Nouakchott depuis le 7 août. Il a été interpellé suite à la plainte de Deda Abdallah, un journaliste l'accusant de calomnie, d'injure et d'incitation à la haine. Maître Cher Ould Indi, avocat de l'accusé, a déclaré que son client a cherché et obtenu un accord de principe avec le journaliste pour clore l'instruction, mais le juge en charge du dossier a passé outre et renvoyé son client en prison. Biram Daoud Abeid est candidat aux législatives sous les couleurs du parti Assawab, qui a fait alliance avec l'aile politique de l'IRA. Le journaliste Abdallah a réalisé un documentaire sur cette alliance qualifiée de contre-nature. Il a alors interrogé des alliés et des adversaires du candidat sur son parcours politique et humanitaire.
Le centre d'analyse International Crisis Group a publié un nouveau rapport sur le Cameroun, notant une baisse en intensité du conflit dans l'extrême nord où opèrent les combattants de Boko Haram venus du Nigeria voisin. ICG estime toutefois que l'avenir des anciens membres du groupe djihadiste nigérian et celui des comités de vigilance, ces milices civiles qui combattent les djihadistes, sont deux défis majeurs auxquels Yaoundé doit répondre. Concernant les anciens combattants camerounais de Boko Haram, ICG appelle à un procès équitable. Nous y reviendrons en partie magazine. Au Burundi, un militant des droits de l'homme a été condamné hier à 5 ans de prison. Nestor Nibitanga est accusé de travailler pour le compte de APRODE, une association interdite par le pouvoir. Les précisions de Irénée Herman-Ungbo.
Nestor Nibitonga a été condamné par le tribunal de grande instance de Bujumbura à 5 ans de prison pour avoir continué à fournir des rapports sur les droits de l'homme à l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues à Prodé, fermée par le régime depuis 2015. Selon son avocat, maître Fabien Segatoa, M. Nibitonga collabore depuis 3 ans avec le réseau national des organisations des droits de l'homme, toujours autorisé et à ce titre n'aurait pas dû être condamné. Il avait été arrêté le 21 juin 2007 par le service national de renseignement à Gitega avant d'être acheminé à la prison de Rumonge. Au moins, il n'a pas été torturé ou tué comme d'autres activistes ou opposants arrêtés par le régime de Bujumbura, se félicite Claver Bonimpa, acteur en exil de la société civile burundaise.
L'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo a fait jusque-là 41 morts, selon l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, une porte-parole du ministère congolais de la santé a déclaré qu'il y a 41 décès, dont 14 confirmés. Les cas confirmés ont été testés positifs en laboratoire à partir de prélèvements sur des malades, précise le ministère. Les cas probables sont souvent des décès déjà enregistrés pour lesquels il n'a pas été possible de faire des tests. Un tribunal éthiopien a ordonné la remise en liberté sous caution de 11 policiers accusés de négligence. Il leur est reproché de n'avoir pas pu empêcher une attaque à la grenade lors d'un meeting du premier ministre réformateur Abiy Ahmed le 23 juin dernier. 2 personnes avaient péri dans l'explosion d'une grenade et 150 autres avaient été blessés, pour la plupart dans la bousculade qui s'en était suivie. Par ailleurs, 5 personnes arrêtées peu après l'attaque et soupçonnées d'implication directe doivent se voir préciser les charges qui pèsent sur elles d'ici à la fin de ce mois. En Libye, une dispute entre membres de la garde présidentielle à l'entrée du Parlement a dégénéré en accrochage armé, faisant plusieurs blessés. Un parlementaire figure parmi les blessés. La Chambre des représentants, élue en 2014 et siégeant à Tobrouk, devait voter fin juillet une loi organisant le référendum sur le projet de constitution. Mais à plusieurs reprises, les séances ont été levées à cause de disputes entre parlementaires sur le texte de la loi. Et aujourd'hui encore, la séance a été levée jusqu'à la fin de ce mois.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Angleterre, un homme a foncé avec sa voiture sur des cyclistes et des piétons devant le Parlement à Londres, faisant 3 blessés avant de percuter une barrière de sécurité. Une attaque traitée par la police comme un acte terroriste. Bagasikoura.
Tôt ce matin, les images diffusées par les chaînes britanniques montrent le véhicule, une Ford Fiesta gris métallisé, en train de quitter sa trajectoire vers un passage piéton. Puis le véhicule fonce vers 2 policiers qui s'écartent in extremis avant qu'ils ne percutent une barrière de sécurité régulant l'accès au Parlement qui ne siège pas cette semaine. Le conducteur, seul occupant du véhicule, a été arrêté sur place. Aucune arme n'a été trouvée sur les lieux, a précisé Scotland Yard. Nous traitons cela comme un incident terroriste, a déclaré à la presse le chef de l'antiterrorisme Neil Bazou. Le conducteur, âgé d'une 20aine d'années, dont l'identité n'est pas révélée, est détenu pour un soupçon d'acte terroriste. Le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une vague d'attentats, dont 4 revendiqués par le groupe État islamique, qui ont fait au total 36 morts et 200 blessés.
En Italie, au moins 20 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une portion d'un viaduc d'une autoroute à Gênes. C'est dans le nord du pays. Cet accident a précipité voitures et camions dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. Selon Eduardo Rixi, vice-ministre italien des infrastructures, ce bilan risque de s'alourdir. Les images de télévision montrent des dizaines de secouristes s'activant autour de carcasses de camions et de voitures. Et selon la société italienne des autoroutes, des travaux de consolidation étaient en cours sur la base du viaduc. L'Espagne va accueillir 60 des 141 migrants présents à bord de l'Aquarius dans le cadre d'un accord avec d'autres pays européens. Selon le chef du gouvernement Pedro Sanchez, l'Espagne a coordonné un accord pionnier avec 6 pays pour se répartir l'accueil des personnes dans l'Aquarius. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé un boycott des appareils électroniques américains dans une nouvelle étape dans les tensions entre la Turquie et les États-Unis. S'ils ont des iPhones, il y a des Samsung de l'autre côté, a-t-il lancé lors d'un discours à Ankara. Ces déclarations surviennent alors que Washington et Ankara traversent une crise diplomatique qui a conduit ces deux alliés au sein de l'OTAN à s'imposer des sanctions réciproques en août. La monnaie turque semblait se stabiliser aujourd'hui après avoir perdu près de 20% de sa valeur la semaine dernière. Et puis, les États-Unis expriment leur ferme opposition au traité proposé par la Russie et la Chine pour empêcher une course à l'armement dans l'espace en le qualifiant de creux et d'hypocrite. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle à présent dans la Minute Éco, présentée ce soir par Clermont et Jubourg.
Air Algérie va désormais desservir l'Afrique centrale. Selon le site d'information aéronautique News Aero, deux nouvelles lignes vers Douala et Libreville vont être ouvertes avant la fin de l'année, à raison de 3 vols par semaine chacune. La compagnie nationale algérienne sera sans concurrence sur ces trajets. Air Algérie dessert notamment Abidjan, Bamako, Dakar, Niamey et Ouagadougou. Le tourisme tunisien est en forte progression. Les recettes sont en hausse de 42% pour les 7 premiers mois de 2018, soit 554 millions de dollars, selon le bilan du ministère du Tourisme. Ces chiffres marquent une nette reprise de l'industrie touristique tunisienne après plusieurs années de vaches maigres consécutives aux troubles politiques ayant suivi la révolution de janvier 2011 et aux attentats de 2015. Le Nigeria est en négociation avec le Brésil pour l'implémentation d'un programme agricole de 1,1 milliard de dollars pour l'achat de matériel, de machines et d'équipements agricoles. Un financement en 3 tranches sera assuré par la banque brésilienne Exim Bank. La Banque centrale du Nigeria va, elle, couvrir le fonds de roulement des intrants, notamment les engrais, les semences et les pesticides.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La FIFA menace 2 fédérations africaines.
Oui, la FIFA a menacé de suspendre les fédérations de football du Nigeria et du Ghana. Concernant le Nigeria, la FIFA demande que le président de la fédération, Amadou Melvin Pinnick, dûment élu le 30 septembre 2014, retrouve ses pouvoirs, tout comme le comité exécutif. Si ce n'est pas le cas, la fédération nigériane sera suspendue avec effet immédiat. Et cette sanction aurait un impact, puisqu'actuellement, la sélection du Nigeria est engagée dans la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. La FIFA menace également de suspendre la fédération du Ghana, dont le président Kwesi Nyantakyi a démissionné début juin en raison de soupçons de délits de corruption après des révélations explosives d'une enquête journalistique. La FIFA précise que sa commission d'éthique a ouvert une enquête à l'encontre de M. Nyantakyi et qui a été provisoirement suspendue par cette même commission. La FIFA considère que les mesures prises par la justice ghanéenne visant à la dissolution de la fédération constituent une ingérence.
Ronaldo va mieux.
Oui, l'ancien international brésilien âgé de 41 ans a annoncé sur Twitter être sorti de la clinique où il était soigné depuis la fin de la semaine dernière sur l'île d'Ibiza. Ronaldo, double ballon d'or, a été désigné joueur FIFA de l'année à 3 reprises avant de se retirer des terrains. C'était en 2011.
On reste en football, c'est la saison des transferts.
Le milieu international français de Chelsea, Tiemoué Bakayoko, a été prêté avec option d'achat au Milan AC, annonce des deux clubs aujourd'hui. Le joueur de 23 ans avait seulement rejoint les Blues l'année dernière en provenance de Monaco pour 45 millions d'euros. Selon la presse italienne, Bakayoko s'est engagé avec le Milan AC pour 5 millions d'euros avec une option d'achat de 35 millions d'euros l'été prochain. Et puis le comeback inattendu du défenseur Stéphane Mbia qui doit s'engager avec Toulouse. Le Camerounais est arrivé cette semaine dans l'Hexagone pour finaliser un contrat d'un an avec le club toulousain.
Bakambu est en forme en Chine.
13 buts en 13 matchs, Cédric Bakambu s'éclate en Chine. Ce mardi, l'ancien attaquant de Villarreal a inscrit un doublé lors du succès des Beijing Guoan contre le Dalian Yefang. 5 buts à 2, ça va donc plutôt fort pour le joueur congolais.
Puis l'Éthiopie fait les yeux doux à son champion Lilesa.
Ah oui, l'Éthiopie a demandé au marathonien Feyisa Lilesa, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, de rentrer dans son pays en lui promettant même d'être accueilli en héros. Lilesa, 28 ans, vit en exil aux États-Unis. Depuis 2016, à Rio, il avait symboliquement croisé les poignets en passant la ligne d'arrivée du marathon olympique pour protester contre la répression brutale de son ethnie, les Oromo, majoritaires dans le sud de l'Éthiopie. Le comité olympique et la fédération d'athlétisme ont co-signé cette lettre ouverte où ils demandent que Lilesa reprenne sa carrière dans et pour son pays.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. Et on passe maintenant au dossier du jour. En République démocratique du Congo, l'opposition tente de trouver un candidat commun pour la présidentielle du 23 décembre. Six leaders et candidats présidentiels ont signé hier dans la soirée une déclaration dans ce sens. Pour une analyse, Eddy Isango a joint à Kinshasa la coordinatrice d'Actu 30 Magazine, Rachel Kitsita-Dongo.
Ils sont toujours dans l'étape des négociations, le début des discussions. D'abord pour dégager un principe autour de la désignation, donc qui va faire en sorte que le processus s'accélère. Dégager un principe, certainement un profil du futur candidat commun de l'opposition. Il y a à ce jour 25 candidatures par la CENI, mais c'était 6 leaders exactement qui ont apposé leur signature sur le document ou du moins par leur délégué. Donc il s'agit de Jean-Pierre Bemba, de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Kanere, Martin Fayulu et Freddy Matungulu.
Ils ont tous, chacun à son tour, fait une démonstration de force de leur popularité. Comment pensez-vous qu'ils puissent accepter de laisser de côté leurs égos?
La tâche ne va pas être facile pour ces leaders d'opposition de pouvoir concéder et soutenir une candidature commune. Que l'élection se déroule à un tour, c'est ça finalement le grand danger. C'est-à-dire le premier à avoir le plus grand, en fait, le plus de pourcentage que les autres l'emportent, devient président de la République. Et donc aller en ordre dispersé, c'est émietter les voix et ce n'est pas avoir la chance de gagner l'élection. Bien, maintenant la question c'est comment vont-ils faire par exemple? Vous prenez un parti comme l'UDPS, Félix Tshisekedi et son staff ou le bureau politique du parti peuvent décider, je prends un exemple, de soutenir X candidat. Est-ce que la base, c'est la question que moi je me pose, est-ce que la base sera d'accord avec le choix du président Félix Tshisekedi? C'est qui veut dire qu'il faudrait, selon moi, essayer de négocier avec la base, appeler à la retenue, appeler au calme, à la compréhension de la base, pour que la base puisse décider et s'aligner du côté de la décision du président qui va finalement accepter cette concession.
Quel signe donne-t-il de vouloir concrétiser cette volonté d'une candidature unique?
Déjà le fait que Jean-Pierre Bemba est arrivé, il a discuté avec Félix Tshisekedi, avec Vital Kamerhe, ensuite Kamerhe, F. Bazaïba, Félix Tshisekedi ensemble, et puis cette déclaration commune qui a été lue le lundi.
Il y a la question des temps qui se pose.
Ça peut se négocier même jusqu'à la veille des élections, j'ai l'impression.
Soutenir un candidat unique, c'est une question, et arriver à un programme commun, c'en est un autre.
Quand le FCC le fait, l'opposition peut le faire aussi.
C'était Rachel Kitsita-Dongo, la coordinatrice d'Actu 30 Magazine.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la renonciation du président congolais Joseph Kabila à un troisième mandat, et ce après un long suspense. Il aurait dû quitter le pouvoir il y a 2 ans, soit à la fin de son second et dernier mandat tel qu'exigé par la Constitution. Que signifie cette décision pour la RDC et le reste du continent? Dans quelles conditions se déroulera l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain après maint report? C'est une édition que nous allons vous proposer en collaboration avec notre chaîne partenaire WAF TV à Dakar. Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Boko Haram affaibli au Cameroun. Le nombre de victimes a baissé, le nombre d'attaques a fortement diminué. Et d'après International Crisis Group, il y a beaucoup moins de combattants dans les rangs de l'organisation djihadiste dans l'extrême nord du pays. Mais pour asseoir définitivement la paix, le gouvernement camerounais doit désormais s'occuper du devenir des anciens combattants, estime International Crisis Group. Morgan Guriek a joint Hans de Marie Angoup, analyste à International Crisis Group.
Nous n'avons pas de chiffres à la virgule près, mais nous savons que plus d'un millier de membres de Boko Haram ont perdu la vie dans les combats contre les forces de sécurité camerounaises. Nous ne faisons pas mention ici d'exécutions extrajudiciaires. Nous parlons de personnes tuées en situation de combat. D'autres ont été faits prisonniers. Présentement, on a encore autour de 500 à 600 présumés membres de Boko Haram qui sont à la prison de Maroua, dont plus de 200 ont déjà été condamnés. D'autres désistent le mouvement, soit en se rendant officiellement, comme c'est le cas d'environ 200 membres. D'autres encore trouvent des moyens de se réinsérer au sein de la société sans que l'on ne sache pas quel procédé. Cela donne pour nous un indicateur pertinent de l'affaiblissement de Boko Haram dans cette région camerounaise. Affaiblissement qui ne signifie pas pour autant défaite de Boko Haram. Notre rapport insiste sur comment on envisage la phase de stabilisation du post-conflit.
Aujourd'hui, ce qui vous préoccupe le plus, c'est la gestion des anciens combattants, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
Et alors, vous recommandez quoi ?
Disons que le Cameroun s'est plutôt mis sur le tard à traiter de la question. Il n'a pas encore élaboré une politique concrète pour la réinsertion d'une partie de ceux qui se rendent. Et donc nous, ce que nous proposons au gouvernement, c'est de distinguer premièrement entre les membres que l'on pourrait qualifier de radicalisés, de ceux qui ont rejoint Boko Haram par opportunité d'affaires ou opportunité économique. Distinguer ensuite entre ceux qui ont commis des crimes graves, comme des tueries, et ceux qui ont peut-être commis des crimes moins graves, comme par exemple juste livrer des informations à Boko Haram ou alors servir de logisticien, de ravitailleurs de factions combattantes. Le Cameroun pourrait envisager une forme de justice particulière pour chacune des catégories. Certaines vont nécessairement passer par la case de prison et subir un processus que l'on pourrait qualifier de déradicalisation, tandis que d'autres pourraient passer par des formes de justice communautaire et par la suite être réinsérées. Si un message fort n'est pas envoyé aux centaines de Camerounais ou aux presque milliers de Camerounais qui demeurent dans Boko Haram, il sera véritablement difficile d'en venir au bout du conflit. Pendant des années, ils vont continuer à essaimer le long de la frontière et continuer à menacer les vies des populations locales.
Donc ce que vous voulez, c'est les inciter à se rendre.
Il faut trouver le juste milieu entre une politique suffisamment incitative pour que les membres de Boko Haram veuillent se rendre et la nécessité de la justice afin qu'une telle politique ne soit pas simplement perçue comme une prime à la violence ou au terrorisme par les populations locales.
C'était Hans de Marie Angoup, analyste à International Crisis Group.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, le gouvernement engage une opération de retrait des enfants de la rue. Elle a débuté le week-end dernier et va se poursuivre pendant plusieurs semaines. Le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré, nous en parle.
Dans les rues de la capitale burkinabé et dans toutes les grandes villes du pays, il n'est pas rare de voir des enfants traîner dans les rues. Ils quémanent, mangent et dorment dehors. Plusieurs catégories d'enfants sont concernées. Solange Somé est la directrice provinciale de la femme de la solidarité nationale dans le Houé, Bobo-Dioulasso, deuxième grande ville du pays.
De façon générale, il y a dans ce groupe de Madians-là les enfants talibés. Il y a même les enfants en situation de rue qui mendient. Et il y a les enfants, les jumeaux, voilà, que les parents, les mamans trimballent en ville.
La plupart des enfants sont confiés à des maîtres pour leur apprentissage du Coran. Le petit Amidou, à peine 10 ans, est mendiant.
C'est mon papa qui m'a confié à un maître coranique. Et il nous dit de sortir de l'île.
L'islam condamne d'ailleurs ces phénomènes. Oumarou Mone est imam au Serfi, cercle d'études, de recherche et de formation islamique.
De plus en plus, le phénomène s'est aggravé où certains maîtres coraniques en font maintenant un gagne-pain. Certains même vont à imposer un certain nombre de montants que les enfants doivent envoyer chaque soir. Dans aucun texte de l'islam, vous ne verrez nulle part où on encourage effectivement les uns et les autres à la mendicité, surtout la mendicité professionnelle. En faire une profession, l'islam rejette ça.
Et au ministère de la Solidarité nationale, on ne veut plus voir d'enfants dans les rues. Au moins 10 équipes sont engagées pour l'opération, pour retirer les enfants des rues. La ministre assure que le gouvernement va se battre pour les mettre à l'abri et permettre leur réinsertion sociale et professionnelle. Marie-Laurence Marchal-Ilboudo.
Nous allons les accompagner, en tout cas, pour qu'ils prennent leur destin en main. C'est un travail de patience. Vous avez suivi un peu et puis de persévérance. Je pense que nos équipes sont déjà aguerries pour cette tâche et surtout qu'il y a la volonté. C'est pour ça que nous avons basé notre stratégie sur le volontariat. Donc il faut être volontaire pour faire ce travail. Vous voyez, il pleut, on est sous la pluie et il faut prendre ses enfants en douceur. Donc je suis confiante du résultat.
Les enfants ont 6 mois à faire dans les centres d'accueil, le temps de chercher les parents. Et dans le cas échéant, à défaut de retrouver les parents, certains enfants seront placés dans les centres aménagés pour les accueillir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Burundi, en moins de 6 mois, le gouvernement a revu à 2 reprises à la hausse le prix des produits pétroliers. Pour le ministre des Hydrocarbures, de l'Énergie et des Mines, cette hausse est liée au prix du carburant au niveau international. Pour l'Association burundaise des consommateurs, une telle hausse se fait sans une réelle transparence. Reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
Désormais, le prix du litre d'essence super passe de 2250 à 2400 francs burundais et dorénavant 2350 pour le litre gasoil. Cette hausse des carburants a déjà occasionné la hausse du prix des transports dans les provinces de l'intérieur du pays, de même que les prix des produits vivriers. Le ministre des Hydrocarbures, de l'Énergie et des Mines, comme Manirakiza, justifie son choix.
Cette mesure de révision des prix des produits pétroliers est dictée notamment par, premièrement, la hausse des prix de ces produits sur le marché international qui ont augmenté depuis la dernière structure du 19 janvier 2018, respectivement d'environ 33% et 24% pour l'essence et le gazoil. Comparativement aux prix appliqués dans les pays de la sous-région, on constate que les prix de ces produits restent les plus bas alors que le Burundi se trouve en aval de la chaîne d'approvisionnement par rapport aux différents ports.
Le Burundi lambda de la capitale indique que cette hausse des prix pétroliers va augmenter les prix des autres produits. Les habitants de la capitale, qui n'ont pas voulu s'exprimer au micro de VOA Afrique, affirment que cette hausse peut permettre aux autorités de pouvoir continuer la mise en œuvre de leur programme au niveau social. Mais de nombreux Burundais, commerçants, transporteurs, pensent comme Jean Douimana, qui estime que cette mesure gouvernementale va toucher quasiment tous les Burundais de l'intérieur de la capitale.
Voilà que les prix du carburant grimpent, ce qui occasionne la hausse des prix des autres produits, dont les produits vivriers et autres, qui n'est pas touché. Tous les Burundais sont touchés. Les transporteurs ont déjà revu les prix du ticket.
L'association burundaise des consommateurs, Abuko en sigle, son président Noël Nkurunziza n'apprécie pas cette hausse des prix qui se fait sans transparence.
Comprenez qu'en tant qu'une association qui défend les consommateurs, on ne pourrait pas apprécier la hausse. Or, une hausse qui a encore des conséquences sur le reste de la vie du consommateur. Il n'y a pas assez de transparence. Nous pensons qu'il devrait y avoir encore plus d'autres stratégies qui devraient être pensées. Ayant vu que les deux stratégies ne répondent pas comme il faut à la satisfaction du consommateur.
Noël Nkurunziza, président de l'association des consommateurs, estime que le gouvernement burundais devait se pencher sur l'option de faire passer ses produits pétroliers sur le lac Tanganyika, car le coût pour les importateurs serait réduit. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Michael Dubinsky, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafri.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.